Radio de la Paix, il est 12h. Le journal du midi, Mel Emmanuel.
12h à Sassako, Bénigny, Jacquesville, région des Grands Ponts et partout en Côte d'Ivoire. Merci de nous suivre sur Radio de la Paix. Économie ivoirienne, le projet de loi portant politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique a été adopté hier mardi 26 mars 2024. Sur le même sujet, les députés de l'opposition, eux, ont voté contre cette adoption. Vous les entendrez dans ce journal. En Tunisie, 4 accusés dans le procès pour l'assassinat de l'opposant de gauche Chokri Belaïd en 2013 ont été condamnés à mort ce mercredi. Et de retour en Côte d'Ivoire, nous reviendrons sur l'élection présidentielle au Sénégal. Dr Séverin Kwame, invité de la rédaction de Radio de la Paix, sera en entretien avec Francis Cassis sur le sujet. Bienvenue à ce journal de la mi-journée. Le gouvernement ivoirien veut relever la gestion de la dette publique au niveau des standards internationaux. Alors, l'adoption d'un texte unique couvrant l'ensemble des aspects liés à la politique d'endettement, à la stratégie de gestion de la dette et à la gouvernance est apparue nécessaire. Un projet de loi portant politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique a été adopté à cet effet hier mardi par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Le ministre des Finances, Adama Koulibaly, après l'adoption du texte.
C'est une loi qui vient renforcer davantage les modalités d'endettement et de gestion de la dette publique. C'est un sujet qui intéresse la nation. Vous avez constaté récemment qu'il y a eu beaucoup de discussions sur le sujet. Il était donc important que cette loi qui était déjà en préparation depuis longtemps, puisse être présentée et expliquée aux honorables députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. C'est ce que nous avons fait, les innovations que ça apporte. Premièrement, c'est une loi qui va encadrer les modalités d'emprunt, et pas seulement les emprunts d'État, mais aussi tout ce qui est octroi de garantie aux entreprises, aux personnes morales et aux entités qui solliciteraient l'État pour des garanties. Donc ça, c'est quelque chose d'important qu'il fallait expliquer de façon détaillée de façon extensive aux honorables députés. La deuxième innovation, c'est que désormais, avec cette loi, rien ne pourrait être fait sans que les honorables députés ne puissent examiner cela dans le cadre de la loi de finances. Parce que désormais, avec cette loi, toute la documentation nécessaire concernant les emprunts vont accompagner la loi de finances. Donc, en votant la loi de finances, les députés vont donner leur accord sur le plafond de financement de l'État pour une année donnée. La loi, comme vous le savez, elle a une portée générale. Il y a des décrets d'application qui seront donc élaborés pour l'application de certaines dispositions de cette loi.
À l'instant, le ministre des Finances, Adama Koulibaly. Et en rapport avec l'opposition de ce projet de loi, les députés de l'opposition ont voté contre. Les raisons de cette opposition avec Gozé Seplé Bernard, député PDCI-RDA.
La dette publique en Côte d'Ivoire fait l'objet de préoccupations qui ne datent pas d'aujourd'hui. Jusqu'en 2011, cette dette était évaluée à 8 000 milliards et au bénéfice de l'initiative PPTE, cette dette a été ramenée à 4 000 milliards. Mais à partir de 2012, la dette a repris son augmentation et à fin 2022, le stock de la dette publique est évalué à plus de 25 000 milliards. Donc l'opposition a soulevé les dérapages qui avaient été constatés. D'abord, le stock qui avance dangereusement, les ressources d'emprunt qui sont affectées au fonctionnement, l'absence de soutien même à l'économie. C'est ainsi que ce projet de loi est venu. Nous nous attendions donc à des indicateurs qui allaient permettre de corriger véritablement ces insuffisances-là. La loi qui nous est donnée, il n'y a aucune norme qui encadre l'évolution du stock de la dette. Et ce qui a été dit aussi, c'est que les investissements sont faits de manière massive, mais ce n'est pas bien orienté. Nous avons insisté par exemple sur le nouveau pont, sur l'immeuble qui est en train de se construire, dit-on pour un coût de 280 milliards. Est-ce que véritablement on en a besoin? Donc nous pensons qu'il y a des investissements de luxe, à tel point que nous avons demandé que les projets d'investissement qui sont de caractère stratégique soient soumis à l'Assemblée avant de les inscrire au budget de l'État. Mais c'est ce qui n'a pas marché. C'est pour cela que l'opposition dans son ensemble a voté contre.
Vous écoutiez Gozé Seplé Bernard, député PDCI-RDA. Ses propos et ceux du ministre de l'Économie, Adama Koulibaly, nous ont été rapportés par Junior Cardin. Parlons de questions climatiques dans ce journal. Un projet de modernisation des infrastructures pour l'amélioration de la surveillance climatique, la vigilance météorologique, l'alerte précoce et la maintenance des systèmes verra bientôt le jour en Côte d'Ivoire. Objectif, améliorer les services fournis par la société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique Sodexam sur le plan de la météorologie et avec l'appui du gouvernement. L'information sur ce projet d'un coût global de 18 milliards de francs CFA a été donné au cours du traditionnel Tout savoir sur, organisé par le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG. Écoutons à ce sujet le directeur de la météorologie nationale à la Sodexam, Daouda Konaté. Il est au micro de Mata Touré.
Nous allons avoir dans ce projet 10-13 stations de référence en Côte d'Ivoire. On va passer de ces 10-13 stations à 30 stations de référence où chaque région administrative de la Côte d'Ivoire sera dotée d'une station climatologique pour pouvoir aider les agriculteurs, les secteurs socio-économiques de chaque région à pouvoir connaître son climat et également anticiper sur les actions d'adaptation. Nous allons doter chaque région administrative d'un équipement de mesure. Nous allons acquérir également un radar météorologique pour répondre aux alertes. Le radar météorologique est un système qui permet de détecter 6 heures ou 8 heures en amont, un phénomène qui arrive pour savoir s'il est dangereux ou pas. Parce qu'avec le radar, on arrive à calculer à l'intérieur du nuage la quantité d'eau qui peut tomber. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas le faire, connaître exactement la quantité d'eau dans un nuage. Avec un radar météorologique, on peut calculer la quantité d'eau qui est dans un nuage et où il peut tomber. Un autre acquis, ce sera vraiment dans la sous-région ouest-africaine, par quoi on va être doté d'un centre régional de maintenance des équipements météorologiques francophones.
C'était le directeur de la météorologie nationale à la Sodexam, Daouda Konaté. Faisons un tour des régions de la Côte d'Ivoire. Dans le Bonkani, au nord-est du pays, le relèvement économique par la culture maraîchère pour l'indépendance financière de la femme a été célébré sous le thème « Au cœur des débats de la Journée internationale des droits de la femme ». C'était le 20 mars dernier à l'IFEF de Bouna, dans le Bonkani, pour Radio de la Paix, Jérôme Kouassi.
Le choix de ce sous-thème avec Zoku Daniel, la directrice régionale du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant du Bunkani.
Parce que c'est une région qui est dans l'agriculture. Donc si elle s'implique dans la culture vivrière, la culture maraîchère, le commerce, elles peuvent se prendre en charge.
La région regorge des riches bas-fonds, mais reste dépendante pour l'instant de l'extérieur pour certains produits vivriers. Par les Tangba, la présidente des Femmes Lobby.
La terre de Bouna est bien propice pour la culture de l'oignon et de la tomate. Mais pour l'heure, nous sommes ravitaillés par le Burkina Faso et le Niger.
Avec les femmes, le directeur régional de l'agriculture interpelle celle du département de Bouna, Conan Kwadio Lucien.
Est-ce que nous, on a besoin d'aller au Niger pour chercher l'oignon? Mettez-vous en association, en groupement des femmes. Nous sommes là pour vous encadrer.
La femme demeure au cœur du programme de développement des collectivités, a rassuré le président des régions, Yann Philippe.
Le respect de ses droits, c'est capital. Nous nous battons pour que la femme soit donc la locomotive du développement dans la région du Bunkani.
Et cette journée sert de rappel, d'après Mme Zoku Daniel, la directrice régionale du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant du Bunkani.
Donc cette journée-là, on vient leur rappeler qu'il y a une lutte qui a été faite. C'est ensemble, on doit faire bouger les lignes.
C'est tout le mois de mars qui est dédié à la Journée internationale des droits de la femme. Ce qui explique la date décalée du 20 mars, nous a confié la nouvelle directrice de la Femme, de la Famille et de l'Enfant du Bunkani. Jérôme Kouassi Krou de Bouna, Radio de la Paix.
Du Bunkani au Tonkpi dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, le Conseil régional vient de tenir sa première réunion de l'exercice 2024 à Zaounia, chef-lieu du département. C'est la deuxième du genre depuis décembre 2022, une volonté du président de la région du Tonkpi, Albert Mabri-Touakeus, qui vise à rapprocher les activités annuelles du Conseil, des populations et des autorités administratives du dit département. Stéphane Adams.
Le quorum atteint, le président du conseil régional du Tonkpi a d'entrée de jeu situé l'importance de cette rencontre à Zaounia. Albert Mabri-Touakeus.
Monsieur le sous-préfet, les parents, vos administrés, nous avons décidé depuis l'année dernière de faire un conseil en dehors de moi qui vise à montrer le travail qui est en cours parce que très souvent c'est des décisions qui se prennent en salle et donc c'est le tour de Zaounia. Nous sommes très heureux que vous soyez à nos côtés, témoin oculaire, mais aussi celui qui prolonge l'action de l'administration. l'administration.
Ensuite, il a mis en avant les réalisations en cours pour le bien-être des populations dans cette localité située à l'extrême ouest du pays.
Nous avons visité tout à l'heure le groupe scolaire où le conseil est en train de construire un bâtiment de 3 classes. Avec la taille de Zialé, on a pris la décision de construire un collège et c'est le premier bâtiment du collège qui est là, qui doit être complété assez rapidement parce qu'on a déjà le OK de l'éducation pour que le collège ouvre à la rentrée prochaine. On ne peut pas avoir un collège où il n'y a pas de route, donc il faut qu'on fasse l'ouverture de la voie et le bâtiment administratif pour la rentrée prochaine.
Au terme de la rencontre, Dame Dion Pauline.
Je suis heureuse que le conseil régional soit à Zongwen, surtout venu nous montrer ce qu'ils font comme travail pour la population que nous sommes. J'espère qu'ils vont continuer dans ce sens-là.
Notons que Zouaounien sort peu à peu de sa léthargie. Stéphane Adams, de retour de Zouaounien, Radio de la Paix.
Notre périple de l'information se poursuit dans le Bassa-Sandra, au sud-ouest du pays. À l'initiative de la Direction régionale du tourisme à San Pedro, il a été organisé le vendredi 22 mars dernier une rencontre d'information des opérateurs économiques du secteur du tourisme. Cela vise à sensibiliser ces opérateurs pour une amélioration de l'offre touristique dans la région. Des détails avec Kofi Benson, notre correspondant dans le Bassa-Sandra.
Ce cadre d'échange pour faciliter les relations entre les opérateurs économiques du secteur du tourisme et les partenaires est nécessaire pour une amélioration de l'offre touristique, selon Goran Suzanne, directrice régionale du tourisme à San Pedro.
La motivation principale, c'est voir évoluer le niveau de l'offre touristique dans le district autonome du Bassa-Sandra. Le ministre du Tourisme a demandé de faire en sorte que le niveau de tourisme de la CAN soit maintenu dans toutes les zones de la Côte d'Ivoire. Et donc, pour répondre à cette instruction du ministre, nous avons voulu ce cadre d'échange entre nos opérateurs du secteur, et je vais dire hôtels, restaurants, bars, maquis, boîtes de nuit, agences de location de véhicules, agences d'hôtesse et tout, et tous ceux qui peuvent leur apporter une contribution d'une manière ou d'une autre pour leur permettre d'améliorer un peu leur offre.
L'amélioration de l'offre passe par la formation. Noël Tchemile se donne pour mission la formation des acteurs de l'hôtellerie.
En matière de formation, on les accompagne. On fait le diagnostic, le suivi. Et chaque année, on fait des propositions de formation à ces hôteliers-là pour encore améliorer l'offre à leur niveau.
Des offres également proposées par Go, Luc.
Le RACAP leur permettra d'agrémenter le séjour de leurs différents clients dans les différents hôtels à travers nos circuits touristiques et également nos campings que nous proposons à toutes ces personnes-là. Au-delà de leur passage à San Pedro, ils ont besoin aussi de découvrir d'autres choses que les hôtels.
Comme pour dire que tout est pensé pour maintenir un parfait niveau du tourisme dans la région. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Nous prenons maintenant la direction du centre de la Côte d'Ivoire où un drame s'est produit. Doumbia Mori, 15 ans, et Aboubakar Kone, 13 ans, ne retrouveront plus jamais leurs amis de classe. Ils ont été retrouvés morts par noyade dans un lac du quartier zone de la ville de Boaké le mercredi 19 mars dernier. Le récit de Joseph Assalé, notre correspondant régional dans le Baké.
Selon les témoignages recueillis la veille, c'est-à-dire le mardi 19 mars, Doumbia Mori et Aboubakar Kone, respectivement élèves en classe de 4e et 6e, se sont adonnés à une partie de baignade, comme bon nombre de gamins du quartier. Une fois dans l'eau, les deux adolescents, emportés par la joie, se sont retrouvés en eau profonde. Et ce qui devait arriver, arriva. Les deux élèves s'enfoncent dans le creux des vagues, sous les yeux hagards et médusés de leurs amis. Le voisin est aussitôt ameuté et la nouvelle s'ébrute jusqu'aux familles. Malgré les recherches, rien n'est fait. Le lendemain, c'est la découverte macabre faite par les services des sapeurs-pompiers. C'est le lieu d'interpeller les autorités locales sur les parties de baignade des gamins qui se retrouvent tous les jours aux abords du barrage en face de l'ancienne usine Gonfreville. Cet endroit est aussi devenu un étang piscicole où les adolescents s'adonnent à cœur joie à la pêche. Et pourtant, cette eau, après traitement par les services de la SODECI, ravitaille les populations de Boaké et même au-delà. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Hors de la Côte d'Ivoire, en Tunisie, 4 accusés dans le procès pour l'assassinat de l'opposant de gauche, Chokri Belaïd, en 2013, ont été condamnés à mort dans le tout premier verdict prononcé dans cette affaire qui avait choqué le pays, a annoncé un magistrat du pôle judiciaire antiterroriste ce mercredi à la télévision nationale. Au total, 23 personnes avaient été inculpées pour l'assassinat dans sa voiture et devant son domicile le 6 février 2013 de cet avocat de 48 ans, critique virulent du parti islamo-conservateur Ennahda, à l'époque au pouvoir en Tunisie. Après 15 heures de délibération et 11 ans d'enquête et procédures judiciaires, le tribunal de première instance de Tunis a également condamné deux accusés à la prison à perpétuité, a annoncé en direct Ayman Chtiba, procureur général adjoint du pôle judiciaire antiterroriste. Nous revenons en Côte d'Ivoire pour amorcer le dernier virage de ce journal, l'invité de la rédaction. Celui que nous recevons aujourd'hui est sociologue, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Boaké. Pour lui, la récente élection présidentielle sénégalaise, saluée par tous comme une réussite démocratique, a donné de voir des dirigeants d'institutions intègres comme ceux du Conseil constitutionnel et aussi des candidats que les électeurs ont seulement jugés sur leur projet de société. Dr Séverin Kwame répond à cet effet aux questions de Francis Cassi.
Docteur Séverin Kwame, bonjour.
Oui, bonjour, M. Kafi.
L'élection présidentielle vient de se dérouler au Sénégal. Quel enseignement pour la classe politique ivoirienne?
Les enseignements sont multiples et ne s'adressent pas qu'à la classe politique ivoirienne, à l'ensemble de la classe politique africaine. Tout le monde se plaît à dire que les institutions sénégalaises sont fortes. Oui, les institutions peuvent être fortes, mais ce sont des individus qui sont porteurs d'un certain nombre de valeurs qui rendent nos institutions fortes. Le Conseil constitutionnel aurait pu s'aligner sur les velléités du président Macky si derrière ces institutions, il n'y avait pas des individus qui étaient porteurs de valeurs. Donc pour moi, la première des choses en termes d'enseignement, il n'y a d'institutions que d'hommes qui incarnent un certain nombre de valeurs, qui sont porteurs de valeurs. Donc pour moi, c'est ce qu'on peut tirer comme premier enseignement de ce qui se passe au Sénégal. Le deuxième enseignement, pour moi, c'est le travail du terrain. Aujourd'hui, on voit le président Faye, mais derrière le président Faye, c'est le pasteur, c'est tout un travail de fourmi qui a été fait sur le terrain, sur le temps long. Donc voilà, on ne s'improvise pas candidat. On travaille à offrir, à donner une offre politique dans laquelle les citoyens se reconnaissent.
Alors donc, à vous entendre, pour vous, les institutions sénégalaises, notamment le Conseil constitutionnel, ont joué un rôle très important dans ce qui est arrivé aujourd'hui comme démocratie au Sénégal.
Les institutions, mais les individus qui animent ces institutions. Pour moi, les institutions restent des coquilles vides si elles ne sont pas animé par des hommes de valeur. Et c'est cela qui fait la différence.
Des hommes de valeur, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Tant qu'on n'a pas des gens animés, j'insiste là-dessus, par le sens de la responsabilité, on a beau se draper du manteau de ce qu'on a telle ou telle institution, les choses ne bougeront. Donc pour moi, d'abord, c'est des hommes qui ne cèdent pas à la pression de qui que ce soit, mais qui n'ont que pour seul juge le peuple, leur conscience et ce que l'institution leur donne comme mandat.
Ah donc, vous parlez de leur intégrité, de leur honnêteté vis-à-vis de la loi.
Voilà, pour moi c'est ça, ces hommes qui sont capables de donner aux institutions toute leur envergure.
Mais il y a quelque chose qu'on pourrait vous rétorquer. Comment est-ce que quelqu'un qui a été nommé président du Conseil constitutionnel par le président de la République, vous voulez que cette personnalité-là aille contre le président de la République?
Mais quelle est la boussole à partir de laquelle ils exercent la responsabilité qui est la leur? Le tout n'est pas qu'on soit nommé. Le plus important, c'est que au-delà de ce qu'on a été nommé, on a justement pour élément de référence justement sa conscience. Et j'insiste là-dessus, les tests qui régissent la fonction.
Venons-en maintenant aux politiques ivoiriens. Quel enseignement on doit tirer de ce que nous venons de voir tous au Sénégal?
Nous n'avons pas de morale à faire à qui que ce soit ici. Mais le plus important à retenir par rapport à l'expérience sénégalaise, il faut que l'offre politique soit lisible. Aujourd'hui, on a le fétichisme de l'âge. Non, c'est pas l'âge, c'est l'offre politique. Donc on peut avoir 25 ans, on peut avoir 30 ans, on peut avoir 80 ans. C'est pas ça le problème. C'est d'être à l'écoute de son peuple et d'être en capacité de formuler des réponses à ses besoins. On a tout un ensemble de problématiques face auxquelles les gens sont en demande de réponses. Ce n'est pas l'âge. Aujourd'hui, vous voyez, en Côte d'Ivoire, quand on regarde le taux de participation aux élections, on se rend compte qu'il y a une sorte de démobilisation. La participation politique est faible.
Mais docteur, est-ce que c'est pas parce que souvent, la population se dit, mais on va aller voter, ça va toujours devenir la guerre. Est-ce que c'est pas ça qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, les gens ont relâché, ne votent plus assez?
Il y a de ça, mais il y a aussi qu'il n'y a pas en face une offre politique. Parce que quand on croit à la pertinence de l'offre qui nous est proposée. On brave tout ce qui est incertitude pour aller voter. On surveille son scrutin, son vote. Même le Sénégal, dont aujourd'hui on félicite la tenue du scrutin, a connu une crise préélectorale meurtrière. Donc c'est pas ça qui est le problème. C'est est-ce que les gens se sentent concernés par le vote? Est-ce qu'ils ont le sentiment que lorsqu'ils votent blanc, ça sort blanc?
Comment est-ce qu'en pratique cela peut se faire? Les populations sont allées voter. Comment est-ce qu'elles peuvent protéger leur vote?
Ça se fait ailleurs. Regardez ce qui s'est passé dans d'autres pays, même au Sénégal. Les gens ont voté et il y a eu tout un travail de veille électorale. Il y a eu tout un travail de veille citoyenne. Les réseaux sociaux ont joué un rôle important.
Mais et si malgré ça, les institutions qui sont chargées de dire les résultats viennent dire le contraire de ce que le peuple a fait? On fait quoi?
Ceux qui sont à la tête des institutions sont des gens à qui on donne mandat. Et donc si, en lien avec ce mandat populaire qu'on leur a donné, ils ne font pas ce qu'ils se font, on doit pouvoir les interpeller.
On voit qu'au Sénégal, le candidat du parti au pouvoir qui a été battu a félicité l'opposant qui a gagné. Est-ce que vous voulez voir un tel scénario ici en Côte d'Ivoire?
Oui, c'est bien de féliciter, mais il faut juste qu'on travaille à ce qu'on ait une sorte de consensus autour des règles du jeu. Quand il y a un consensus autour des règles du jeu et que celui qui a gagné a bien gagné et celui qui a perdu a bien perdu, on n'a pas besoin d'attendre que qui se soit félicite l'autre.
Diomande Faye, qui vient d'être élu, est soutenu par Ousmane Sonko, c'est un tandem. Alors comment est-ce qu'ils vont gérer le pouvoir? C'est vrai, il l'a soutenu, mais peut-être qu'il peut avoir des bisbilles entre les deux personnalités.
Moi, je pense que s'ils ont été en capacité de s'accorder et de créer le modèle de fonctionnement qu'ils ont eu, il n'y a pas de raison pour que dans l'exercice ou à l'épreuve de l'exercice du pouvoir, ils ne trouvent pas les moyens de s'accorder sur ce qui peut apparaître comme différent si tant est-il que des différents venaient à apparaître dans leur conception de la gestion du pouvoir.
Non, on pourra vous rétorquer qu'en politique, tous les coups sont permis, tout peut arriver.
Derrière M. Faye, il y a tout un appareil politique, dont l'une des figures ou la figure de proue a été M. Sonko, mais il reste que c'est à M. Faye que le peuple a donné son suffrage. Donc c'est lui qui est comptable de ce qui va se passer.
Docteur Séverin Kwame, je vous remercie.
Merci M. Kassi.
C'était l'invité de la rédaction, Dr Séverin Kwame, sociologue, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Boaké. Passons maintenant au rappel des titres de ce journal. Économie ivoirienne, le projet de loi portant politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique a été adopté par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale hier mardi 26 mars 2024. Et puis hors de chez nous, en Tunisie, quatre accusés dans le procès pour l'assassinat de l'opposant de gauche, Chokri Belaïd, en 2013, ont été condamnés à mort ce mercredi. Merci pour votre fidélité à Radio de la Paix. L'information revient à 15h en flash. D'ici là, la revue de presse avec Jean-Mylène Bitti.
Bonjour à tous. Tête à tête Macron Ouattara à l'Elysée, que disent vos journaux?